Alors, je vous montre une preuve que notre Dieu est grand. C'est que sur cette carte, il y a 72 punaises. Ça vous parle? Donc, je remercie Sylviana et Mélissa, notamment, d'avoir proposé cette activité de l'Église dans le cadre de ce jour de Pentecôte et ce repas fraternel. C'est que chacun de nous, pendant plusieurs dimanches, cette carte était là et on invitait chacun de vous à mettre une punaise selon votre pays d'origine. Et donc, j'ai compté 72. C'est étonnant. Et donc ce matin, je propose un texte qui explique cette belle réalité que nous vivons ici à l'EBTM avec des personnes de partout qui sont unies en Christ, qui chantent les mêmes chants. Nous avons choisi des chants ce matin. Vous avez constaté qu'ils venaient d'un peu partout. La mélodie que nous venons de chanter est une mélodie suédoise. Nous avons chanté du sud-africain, nous avons chanté de l'africain, nous avons chanté latino, nous avons chanté du français. Et c'est beau de partager tout cela. Donc le texte ce matin se trouve en Galates, chapitre 3. Galates 3, je vais vous lire les versets 26 à 29. Galates, chapitre 3. Versets 26 à 29. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà, Galates 3, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors ce passage, et notamment le verset 28 qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme », ce passage, ce verset, fait partie des plus beaux, des plus puissants, les plus impactants de la Bible dans l'histoire des derniers siècles, des derniers mille ans, plusieurs mille ans. Donc un des plus beaux, un des plus puissants passages de la Bible, peut-être aussi un des plus mal compris, un des plus mal interprétés. Donc nous allons essayer de comprendre ça ce matin. Je crois que ce passage fait partie de notre socle civilisationnel. Les valeurs telles que la liberté, l'égalité et la fraternité n'auraient pas vu le jour sans l'arrière-plan chrétien, sans l'influence des textes comme celui-ci. Et ce verset 28 qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, plus esclave, ni libre, plus homme, ni femme », cette réalité a été comme lancée, comme inaugurée le jour de Pentecôte, où le Saint-Esprit était répandu sur tous. Ce jour de Pentecôte qui a suivi la crucifixion, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ que nous célébrons ce matin. Et à partir de ce moment, à partir de Pentecôte, Dieu indique clairement que son peuple ne sera plus lié à un peuple ethnique ou à un lieu géographique, mais que désormais son amour, son salut, son esprit est accordé à tout le monde. C'était la conclusion de Pierre le jour de Pentecôte. Puisque le Saint-Esprit est répandu ainsi, ça veut dire que quiconque invoque Jésus comme sauveur sera sauvé. Quiconque. Quelle que soit sa langue, quel que soit son arrière-plan, quelle que soit son ethnie, quiconque peut être inclus dans la famille de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons regarder autour de nous, à partir de cette carte aussi, et constater et célébrer la puissance de l'Évangile qui, pour nous unir. Alors j'ai juste deux idées clés ce matin. Tout d'abord, l'Évangile crée l'unité dans l'Église, vraiment. L'Évangile crée l'unité, mais en deuxième point, sans supprimer la diversité. L'Évangile crée l'unité, et en deuxième lieu, sans supprimer la diversité. Alors voyons tout d'abord comment l'Évangile crée vraiment l'unité. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est la conclusion de Paul dans ces versets. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors Paul vise un problème particulier, spécifique chez les Galates, tout au long de cet épître, qui concernait les tensions entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non-juive. Donc les Juifs avaient l'habitude d'avoir accès à Dieu, d'avoir la vérité, d'avoir la Bible. Et maintenant, à partir de Pentecôte, on leur dit, maintenant les non-Juifs peuvent facilement rejoindre le peuple de Dieu et faire partie de votre église, de votre communauté. Alors, c'était difficile à faire comprendre tout ça, mais ils ont accepté, ok, les non-Juifs peuvent maintenant devenir aussi chrétiens. Donc les chrétiens d'origine juive admettaient que les non-juifs pouvaient devenir chrétiens, mais quand même, ce serait mieux. On aurait un statut supérieur, on serait un meilleur chrétien, on aurait un plus si on pratique certaines lois juives, certaines coutumes juives, notamment la circoncision et les lois alimentaires dans la loi de Moïse. Et si on faisait ça, même si un non-juif avait aussi la circoncision et pratiquait les lois alimentaires, là, c'est mieux. Je serais comme un meilleur chrétien. Mais en parlant comme ça, forcément, ça crée deux statuts de chrétiens dans l'Église. Il y a nous, les circoncis, et puis vous, les autres. Et ça ne favorise pas l'unité. C'est un peu comme la pub de Quick à l'époque. Nous, c'est le goût. Face à McDo, nous, c'est le goût. Sous-entendu, vous, c'est pas le goût. Mais tout ça, c'est quand même, on est entre fast-food. Alors le goût, on peut trouver meilleur peut-être. Mais nous, c'est le goût. Et cette attitude s'est installée un peu chez les circoncis, chez les juifs. Nous sommes les justes. Sous-entendu, vous, un peu moins. Et ça n'aide pas à l'unité. Et Paul reconnaît ici, dans la liste de 28, en fait, il y a toutes sortes de différences dans le monde qui peuvent devenir source de classement. Nous sommes juifs, nous sommes libres, nous sommes des hommes. Et vous, bon, vous avez peut-être un moindre salut. Et Martin Luther, dans son célèbre commentaire sur Galates, qui a vraiment impacté 500 ans d'histoire, il dit, à partir de, sur ce verset 28, il y a la liste, il n'y a plus juif ni grec, plus esclave ni libre, homme ni femme, il dit, la liste pourrait s'allonger à l'infini. Il n'y a ni prédicateur, ni auditeur. Il n'y a ni enseignant, ni élève, ni maître, ni serviteur. On peut ajouter ni marié, ni célibataire. Ni parents, ni pas parents. Mais nous, on est capable, à partir de ces classements et ces différences, à toujours dire que l'un, c'est un peu meilleur, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du salut, vis-à-vis de l'accès au paradis. Là, c'est un peu mieux. Et Paul dit non, vous, car tous, vous êtes un en Christ. Freud, dont les idées, il ne faut peut-être pas toujours suivre, mais Freud a nommé ce principe, c'est très intéressant, je vous lis ça, le principe, le narcissisme des petites différences. C'est l'idée selon laquelle, lorsqu'au sein d'une communauté où les gens ont beaucoup de points communs, ils sont en réalité plus enclins à se disputer et à se moquer les uns des autres, car ils deviennent trop sensibles aux petites différences qu'ils remarquent chez l'autre et leur accordent plus d'importance qu'ils n'en ont réellement. C'est assez pertinent. Nous sommes assez doués pour vivre le narcissisme des petites différences. Pensez à la grande guerre entre chocolatine et pain au chocolat. Mais il y a la guerre, mais il faut savoir que c'est entre quand même des personnes qui aiment cette chose, cette venuiserie, qui sont capables de le prendre avec un bon café le matin, et ça fait un bon petit déjeuner. Alors qu'il y a d'autres dans le monde qui mangent quoi? De la soupe pour le petit déjeuner? Nous sommes forts pour les... Il n'y a pas que ça. Dans l'histoire, à Constantinople, à un moment, il y avait, on parle des émeutes de Nikos, c'était un moment vers au 6e siècle, je crois, si je ne me trompe pas, c'est que il y avait des émeutes dans la ville qui ont même tué 30 000 personnes, mais à la base, le débat de la base, c'est qu'il y avait une équipe bleue et une équipe verte dans les courses de chars. Alors, il y avait les bleus et les verts. Et là, à partir de ça, on est capable de créer des clans, de se haïr les uns les autres. On est presque capable de faire ça entre supporters d'équipe de sport, alors qu'on est passionné par le même sport, on habite dans le même pays, on va au même stade, et pourtant on arrive à se créer ce narcissisme des petites différences. Mais Paul dit, attends, toutes ces différences, non, vous êtes en Christ, devant Dieu, sur l'échelle de sa sainteté, sur l'échelle de son éternité, toutes les différences que nous mettons en avant, c'est des différences minimes. Aux yeux de Dieu, circoncision ou incirconcision, ce n'est rien. L'important, c'est d'être une nouvelle créature en Christ, dit Jésus. Donc, j'aimerais vous montrer à partir de ce texte les deux façons que l'Évangile opère vraiment l'unité, même dans nos différences. Le verset 26 dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, Paul utilise deux images pour montrer comment l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, crée vraiment l'unité. Et la première image, c'est que vous êtes tous fils de Dieu. Et la deuxième image, c'est que vous avez tous revêtu Christ. Donc, deux images, une fils d'un père, et deuxième image, un habit, un vêtement. Donc, voyons ces deux choses. Tout d'abord, l'unité vient de se rendre compte que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Selon l'Évangile, par la foi seule, vous pouvez devenir enfant de Dieu. Mais ici, l'image est certainement poussée encore plus loin avec cette notion d'être fils, d'être le fils héritier. Parce que c'est très important dans les plusieurs cultures de l'époque, le fils hérite de son père. Et Paul veut insister tout au long de cette lettre que chaque croyant, croyante, hérite de la même promesse. Et cette promesse que nous célébrons ce jour de Pentecôte en particulier, la grande promesse, c'est le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu, l'accès à Dieu lui-même, Dieu qui habite en nous. Donc chaque croyant par la foi en Jésus-Christ est héritier au même statut. Dans la suite de son discours, Paul utilise l'image d'une maisonnée romaine où il y avait le père, et puis il y avait les fils, et puis il y avait les esclaves. Et il rappelle qu'en fait, les esclaves ne sont pas des héritiers, ce sont les fils qui sont des héritiers. L'héritage revient pas aux esclaves, mais aux fils. Et il dit qu'en Christ, si vous rejetez le légalisme juif qui produit un esclavage, vous êtes, si vous, par la foi en Christ, vous êtes fils. Et fils, vous héritiez à part égale. Et ça, c'est une pensée très forte, très puissante dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Si vous comparez toutes les autres grandes religions, la foi chrétienne est la seule à dire la chose. Quiconque a la foi en Jésus-Christ est à un même niveau de salut, un même statut devant Dieu. Et c'est pas pareil chez les autres religions. L'hindouisme, avec son système de castes, crée des différences. L'islam, il y a un fort classement hommes et femmes. Il suffit d'aller à la sortie d'une mosquée et voir la population qui sort d'une mosquée. C'est que des hommes. La franc-maçonnerie fonctionne avec ses 33 degrés. Tu es toujours dans un degré supérieur à un autre. Mais la foi chrétienne, l'évangile, non. Par la foi seule en Christ, chose que n'importe qui peut exercer, la foi est accessible à tous, juifs, non-juifs, hommes, femmes, libres, esclaves, par la foi seule en Christ, que n'importe qui peut exercer, nous sommes au même niveau parce que nous sommes tous justifiés. Ça, c'est le mot-clé de Paul dans cet épître aux Galates, un des mots-clés. Nous sommes par la foi justifiés. Nous sommes justes, parfaitement justes. Chacun qui place sa foi en Jésus-Christ est parfaitement juste au même titre que tous les autres. C'est-à-dire, nous avons tous le même degré de perfection. Donc ça ne marche même pas de dire il y a des chrétiens meilleurs que d'autres. Vous voyez? Parce que si on est justifié par la foi en Christ, si on est fils de Dieu, on est tous pareils. Et la notion de fils et d'héritage nous aide à comprendre ça. Un père peut avoir deux fils, l'un qui a réussi brillamment ses études, l'autre qui a fait de la prison. Quand il s'agit de l'héritage, chaque fils a droit au même héritage. Normalement, selon la loi française en tout cas. Ou un père peut avoir deux fils, l'un est en bonne santé, l'autre est handicapé. C'est le même héritage, même statut. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche l'image du Fils. Vous êtes tous fils de Dieu. Et ça crée une réelle unité dans l'Église. L'autre image, c'est que vous êtes tous revêtus de la même manière. Il dit, en verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » L'image est forte, vous avez revêtu, vous êtes habillés de Christ. Alors, j'aime bien cette image parce que nous, on peut assez bien le comprendre encore de nos jours. L'habillement est typiquement une façon de projeter son identité. Cette semaine, c'était le festival de Cannes. Alors, aux infos, on nous propose toujours les tenues des stars du festival de Cannes. Les tenues des stars du festival de Cannes, ils s'habillent d'une certaine manière pour une certaine raison. L'habillement est souvent lié à une culture, un métier, un niveau social. En regardant l'habillement, des fois on voit cette personne vient de tel pays ou cette personne exerce tel métier. Ou cette personne a tel niveau social, parce que je vois cette marque, je sais combien coûte ce sac à main, et voilà. Donc, la manière que nous nous habillons souvent reflète des différences. Mais Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire, nous portons tous, en quelque sorte, le même habit. Pas visible, mais spirituel. Et réel, nous sommes tous habillés de Christ ce matin. Si vous êtes croyant, vous savez, j'ai vu à l'Éducation nationale, ils veulent imposer des uniformes à l'école pour, disent-ils, créer un sentiment d'appartenance et d'unité entre les élèves. Ils voient qu'il peut y avoir quelques problèmes. Donc, si tout le monde est habillé de la même façon, ça pourrait créer un sentiment d'appartenance et d'unité entre les élèves. Eh bien, Jésus a eu cette idée bien avant. Dans l'Église, ce n'est pas imposé, mais c'est une réalité joyeuse. Dans l'Église, on est tous revêtus du Christ et ça change notre regard vers soi-même et ça change notre regard vers les autres. Si vous êtes, comme il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire, on apprend à se voir revêtu du Christ et on apprend à voir les autres revêtus du Christ et ça crée l'unité. Et le baptême illustre cette réalité intérieur, spirituel, comme il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, parce que justement le baptême, dans le baptême, il y a cette image que le chrétien est uni à Christ, le chrétien recouvert de Christ, le chrétien plongé en Christ et dans sa mort et dans sa résurrection. Le chrétien, par la foi, et on le voit bien à le baptême, le chrétien endosse Christ. J'ai même cherché dans le dictionnaire que veut dire le mot endosser. Endosser, ça veut dire mettre un vêtement sur son dos, revêtir, mais ça veut dire aussi prendre à son compte un acte. J'endosse une responsabilité. Et le baptême illustre bien ça. Christ a endossé notre péché à la croix. Il a pris la responsabilité. Et nous, à notre tour, nous pouvons comme endosser, nous revêtir, de sa mort, nous sommes morts avec lui, et de sa résurrection, nous avons une nouvelle vie avec lui. Et c'est-à-dire, nous prenons à notre compte sa mort et sa résurrection, et c'est ça l'image du baptême. Et donc ce matin, par la foi, vous pouvez vous aussi vous revêtir de Christ, vous pouvez endosser Christ. Sa mort peut être créditée à votre compte, sa résurrection, sa justice peut être créditée sur votre compte. Et Dieu met sur votre compte les actes de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et donc oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et ça, quand on se regarde les uns les autres, on se rappelle, on porte tous quelque part le même uniforme. Le but à l'école, c'est pour ne pas dire, moi j'ai des habits de marque et toi t'es habillé en nul, donc... je suis meilleur que toi. Non, l'uniforme permet de dire, nous sommes tous, et nous pareil, nous sommes tous revêtus du Christ. On ne peut pas dire, je suis meilleur que toi. Vous voyez? Donc, ces idées, notamment le 28, verset 28, ces idées, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Ces idées étaient révolutionnaires dans le monde gréco-romain de l'époque. Parce que eux, ça fonctionnait par classement, par hiérarchie, partout. Mais que Paul dise, homme et femme, juif, non juif, romain, pas romain, esclave, libre, peu importe, vous avez le même statut devant Dieu, vous avez le même salut, vous avez la même dignité, vous avez la même éternité, vous êtes dans la même famille. Eh bien, ça, c'était miraculeux à l'époque. Et ces idées, même, on a vu la supériorité de ces idées, et ces idées sont quand même devenues la base des institutions morales modernes. On dit oui, quand même, cette égalité que vivent les chrétiens au sein de l'Église, on aimerait aussi commencer à le développer partout. Donc ça, oui, l'Évangile crée l'unité. Mais la force aussi de Pentecôte et du Saint-Esprit et de ce livre des Galates, c'est que cet Évangile ne supprime pas les différences en soi, les diversités, mais même peuvent les célébrer, et ça devient un atout pour l'Église. Alors, c'est vrai qu'on lit ce verset, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, et il n'y a plus ni homme ni femme. On peut le prendre vraiment au sens très littéral, et on dit maintenant, il n'y a plus de différence ethnique, il n'y a plus de différence sociale, il n'y a plus de différence homme-femme. Est-ce que c'est ce que veut dire Paul ? Mais vraiment, si on pousse ce verset trop littéralement, on arrive à des incohérences. Vous entendez bien mon accent ce matin. Difficile à dire qu'il n'existe plus de différences culturelles, ethniques. Cette semaine, j'ai dû payer des frais de douane sur un colis, c'était les capsules de Shenzhen qui je fais venir du Royaume-Uni. Donc le livreur UPS voulait des frais de douane sur ce colis. La dame n'a pas accepté ce verset comme argument à ne pas payer les frais. Mais ben non, mais il n'y a plus british, plus français. On est tous unis, tout va bien. Non. Donc pour citer encore Luther, sur ce verset, il dit « Il existe de grandes différences entre les personnes à travers le monde. » Et c'est une bonne chose. Si la femme prenait la place de l'homme, si le fils prenait celle du père, si le serviteur prenait celle du maître, il en résultera que de la confusion. En Christ, cependant, tous sont égaux. Ça, c'est très fort. Beaucoup pensent que pour avoir l'unité, il faut que tout le monde soit pareil. Mais l'Évangile préserve certaines différences. Et Paul même le fait au sein de sa lettre aux Galates. C'est-à-dire le même qui dit il n'y a plus ni juif ni grec, il quand même, par moment, reconnaît la différence entre juif et non-juif. C'est-à-dire, en chapitre 2, Paul reconnaît être « Moi, je suis l'apôtre envoyé vers les non-juifs, et Pierre est plutôt l'apôtre envoyé vers les juifs. » Comment ils peuvent dire ça s'il n'y a aucune différence entre juifs et non-juifs ? Non, il reconnaît qu'il y a des différences culturelles, et des fois, dans son ministère, son propre ministère, il peut dire « Avec les juifs, je fais comme les juifs, et avec les non-juifs, je fais comme les non-juifs. » Donc, il est obligé de reconnaître certaines différences, mais ce qu'il dit en verset 28, c'est qu'il n'y a pas de différence de salut, de niveau de justice, de statut d'héritier. Et ça, c'est fort, parce qu'il va, c'est ce qu'il veut préserver, ces différences. C'est que, et c'est ça que Paul veut préserver, les non-juifs ne sont pas obligés de devenir juifs pour pleinement vivre leur foi. Et c'est la force du Nouveau Testament. Contrairement aux autres religions, des autres religions, il faut quand même se convertir plus ou moins à la culture de base de cette religion. Mais la foi chrétienne ne l'oblige pas. Les non-juifs ne sont pas obligés de se convertir à la culture juive pour devenir chrétiens. Ils ne sont pas obligés de pratiquer la circoncision comme les juifs. Ils ne sont pas obligés de pratiquer les lois alimentaires comme les juifs. Ils ne sont pas obligés de se convertir à la culture juive. Ils peuvent préserver leur culture tout en vivant le même évangile. Et ça, c'est ça qui est beau. Et ce qui est beau, lorsqu'on ne supprime pas toutes les différences, c'est que chacun même aura une meilleure connaissance de Dieu grâce à l'autre. Les atouts de chaque culture peuvent nous aider, d'une autre culture, à mieux apprécier le salut, la grâce de Dieu. Cette semaine, on était à Genève, des conférences, il y avait le grand théologien Henri Blocher. Il a fait cette petite remarque qui m'est restée. Il dit « Les Juifs comprennent mieux la nature gracieuse de Dieu en voyant les non-Juifs être inclus dans son plan. » Donc les Juifs comprennent mieux la nature gracieuse de Dieu en voyant les non-juifs faire partie de sa famille, et les non-juifs comprennent mieux le salut en se voyant comme la descendance d'Abraham. Donc oui, un non-juif, il dit « Vous êtes donc la descendance d'Abraham ». Abraham, c'est quand même un personnage juif. Donc un non-juif comprend mieux son salut en découvrant l'héritage juif, en comprenant la personne d'Abraham, et un juif comprend mieux la grâce de Dieu quand il voit « Ah oui, ces gens-là sont aussi inclus dans sa famille. » Et donc, chaque culture peut apporter un éclairage à l'autre pour mieux comprendre Dieu. On était à Genève, il y avait, quand on prenait nos repas à Genève, on était au bénéfice du cadrage et du réglage à la Suisse. Mais on était aussi au bénéfice du bavardage et du partage à la française. Et c'est beau, comme les chants que nous chantons, nous sommes au bénéfice, et comme les plats que nous allons manger tout à l'heure, nous pouvons être au bénéfice des diversités culturelles. Le message à Pentecôte, ce n'était pas que maintenant on va tous louer Dieu dans la même langue, mais maintenant toutes les langues peuvent louer le même Dieu. Et, remarquons en passant, que Pierre a ensuite prêché un message à tout le monde en hébreu. Il n'a pas utilisé 17 langues pour prêcher son message. Il n'y avait pas encore les casques de traduction à l'époque. Donc oui, on a célébré ce Dieu qui peut être loué dans toutes les langues. Mais ensuite, Pierre a prêché un message à tous dans une seule langue, en hébreu. Et Luc, qui a écrit ces choses, a écrit en grec pour toucher le maximum de personnes. Ça fait qu'ici, par exemple, on va faire nos cultes en français pour toucher un maximum de personnes. C'est ce qui reflète notre unité. Mais on va célébrer l'apport de chaque culture. Donc ce principe, je trouve c'est intéressant, ce principe est vrai pour aussi d'autres choses. Dieu ne supprime pas les différences en créant l'unité par l'évangile. Donc même principe pour hommes et femmes dans l'Église. C'est là où ce verset est souvent mal interprété. Quand il n'y a ni homme ni femme, ça ne veut pas dire, Paul n'est pas en train de dire que toutes les femmes devraient devenir maintenant comme les hommes ou que tous les hommes devraient devenir comme des femmes et... qu'il n'y a aucune différence entre les sexes. Je rappelle le principe, être égaux n'est pas pareil qu'être identique. D'ailleurs, dans le chapitre suivant, Paul va utiliser l'image de deux femmes, deux mères, pour expliquer des alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il dit, ce sont comme des mères. Si dans la tête, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes, entre père et mère, ces images, ces illustrations tout au long de cet épître n'auraient aucun sens. Et on veut célébrer aussi les différences. Une chose qu'un homme ne pourrait jamais faire, c'est être mère. Une chose qu'une femme ne pourrait jamais faire, c'est être père. Mais nous avons le même salut en Jésus-Christ. C'est ça qui est beau. Donc je termine avec cette idée. L'Évangile, le Nouveau Testament, le salut en Christ, ne supprime pas toutes les différences sociales, culturelles, ethniques. Par contre, ce que l'Évangile supprime, c'est le péché, c'est l'orgueil, c'est le communautarisme, ce sont les sentiments de supériorité, c'est le manque d'amour, c'est la concurrence, c'est les difficultés d'entente. Voilà ce que l'Évangile supprime avec ce verset qui nous a lu Alric. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Aujourd'hui, c'est Pentecôte, nous célébrons le don du Saint-Esprit et Paul va terminer sa lettre, notamment dans les chapitres 5 et 6, à rappeler, au lieu de vous embêter à suivre toutes ces lois alimentaires juives, circoncision, pas circoncision, j'ai une meilleure loi pour vous, et c'est la loi de l'amour, c'est la loi du Saint-Esprit. Il dit en chapitre 5, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour et la paix. Et il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, au Pentecôte, nous avons le Saint-Esprit en nous, grâce à la foi en Jésus-Christ, et cette bonne nouvelle nous pousse à l'amour. Et c'est ça qui nous aide à vivre ces réalités ensemble. L'Évangile crée l'unité sans supprimer les différences. Son mot de la fin, Paul, dans cet épître, c'est qu'en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi agissante par amour. Donc c'est ce que nous pouvons vivre avec, grâce au Saint-Esprit, grâce à l'Évangile. Christ mort et ressuscité pour nous, nous pouvons vivre la foi agissante par amour. Et vous savez quelle est une des meilleures façons pratiques d'exprimer cette unité ? C'est de manger ensemble. Mais, attention, même les apôtres avaient du mal. Dans ce livre des Galates, clash entre Pierre et Paul à cause d'un repas fraternel. Parce qu'à table, souvent, les différences culturelles, les façons de s'organiser, tout ça, ressortent. mais nous avons l'évangile en Jésus-Christ. Alors maintenant, nous allons tenter un repas fraternel et nous allons nous rappeler que nous sommes tous fils de Dieu, nous sommes tous revêtus de Jésus-Christ, nous avons été baptisés en lui, comme Eric et Mélissa viennent de nous montrer, et nous allons refléter ce don de Saint-Esprit qui produit le fruit de l'amour, la paix, la joie. Voyons si c'est le cas parmi nous encore ce dimanche, et que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce culte que nous avons pu te rendre. Merci pour ces vérités essentielles, fondamentales, bouleversantes, ce salut en commun que nous partageons, unité, cette égalité que nous avons en Jésus-Christ, tout en préservant, en accueillant nos différences, des différences de culture, des différences de parcours. Nous te remercions pour ce que nous vivons à l'EBTM. Si quelqu'un ce matin est étranger à tout cela, à ta famille, à ton accueil, à ton amour, je te prie qu'il puisse saisir par la foi en Jésus-Christ ta main et être inclus dans ta famille, dans ton amour, pour bénéficier de tous ces avantages. Nous te louons, nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ, amen.